Bertrand, il est 22h.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi soir pour Europe 1 Nuit jusqu'à 22h15. Je vous rappelle d'ores et déjà qu'à 22h30, vous retrouverez Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Et pour échanger avec Olivier, c'est très simple, il suffit de composer dès maintenant le 01 80 20 39 21. Pour le moment, c'est votre journal. Et à la une, le gouvernement Bayrou qui échappe à la première motion de censure déposée contre lui. 131 voix pour, loin des 288 requises. Le Parti Socialiste s'est désolidarisé de ses alliés de gauche après de nombreuses concessions annoncées par François Bayrou. Le nouveau Front Populaire est fracturé. Le Premier ministre enregistre une première victoire de taille. 33 otages israéliens doivent être libérés par le Hamas dans les 6 prochaines semaines. C'est ce que prévoit l'accord de cesser le feu à Gaza conclu hier soir. Israël se prépare à les accueillir avec un protocole intitulé « Les ailes de la liberté ». Présentation à suivre. Dans ce journal également, de nouvelles enquêtes lancées sur le gang d'immigrés pakistanais soupçonné d'avoir exploité sexuellement des jeunes anglaises dans les années 90 et 2000. La traque du faux Brad Pitt qui se poursuit après le reportage sur cette femme arnaquée pendant des mois par un escroc sur internet. Et puis la mort du réalisateur David Lynch à l'âge de 78 ans. Première est franchie sans encombre par François Bayrou. La motion de censure examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale est largement rejetée. Seuls 131 députés l'ont approuvée. Les socialistes n'ont pas mêlé leur voix à celle de leur partenaire du Nouveau Front Populaire. Un succès pour le Premier ministre qui s'est attaqué aux initiateurs de cette motion, les Insoumis. Il s'adressait dans l'hémicycle au député Manuel Bompard.
La motion de censure, Monsieur Bompard, que vous avez présentée, elle dit « Nous voulons rester dans l'affrontement. La démocratie, ça n'est pas l'affrontement perpétuel. Vous êtes dans une situation où vous voulez choisir la guerre intestine au sein de notre pays. »
François Bayrou à l'Assemblée nationale tout à l'heure. La guerre intestine est déjà une réalité à gauche après le refus des socialistes de voter la censure. Le PS fracture le nouveau Front Populaire, mais il capitule seul, écrit ce soir le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas la première fois, mais ce soir la rupture semble actée au sein de l'Alliance Alexis de la Fontaine.
Oui, Olivier Faure prend un énorme risque ce soir. Le patron des socialistes s'émancipe de Jean-Luc Mélenchon et permet à François Bayrou de rester en poste en échange de plusieurs concessions budgétaires et l'assurance d'un vote au Parlement sur les retraites. Cet accord politique, arraché jusqu'à la dernière minute, signe une véritable victoire pour Olivier Faure qui reste tout de même vigilant.
Nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance, mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre.
Seulement 8 députés socialistes sur 66 ont voté la motion de censure. Le groupe s'est donc globalement rangé derrière Olivier Faure, au grand désarroi de Jean-Luc Mélenchon, fou de rage devant la décision du parti à la rose. Vous fracturez le nouveau Front Populaire, mais les écologistes et les communistes votent la censure avec nous. Vous capitulez donc tout seul, lance le leader insoumis, menaçant à nouveau les socialistes de présenter un candidat contre lors des prochaines législatives. Ça ne nous fait pas peur, répond le député socialiste Philippe Brun.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Voilà le Parti Socialiste qui prend ses distances avec ses partenaires de gauche. Alors comment François Bayrou a-t-il réussi là où Michel Barnier a échoué avant lui? Eh bien en accédant à de nombreuses exigences du PS jusqu'à la dernière minute, Alexandre Chauveau.
Oui, obsédé à l'idée de stabiliser les institutions et de garder son poste à Matignon, François Bayrou cède sur la majorité des exigences du PS, réouverture du chantier de la réforme des retraites, avec un retour au Parlement si les éventuelles avancées respectent l'équilibre budgétaire, maintien de la contribution sur les hauts revenus, ainsi que de la surtaxe sur les grandes sociétés, autant de concessions présentées comme un compromis, l'aboutissement, dit François Bayrou, d'un dialogue nécessaire entre des forces politiques à la sensibilité différente. Là où Michel Barnier avait fait preuve d'une certaine certaine rigidité au nom de l'impératif de réduction des dépenses publiques. François Bayrou accepte donc de réduire l'effort pour s'assurer une non-censure du PS. Reste que beaucoup de mesures ne font pas l'unanimité au sein de la Macronie, comme chez les Républicains. C'est le cas de l'augmentation des frais de notaire ou de l'abandon des 2 jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Évidemment que les socialistes achètent, ironise l'ancien ministre Guillaume Kasbarian, symbole d'un socle commun que François Bayrou ne devra pas oublier de contenter pour durer à Matignon.
Alexandre Chauveau et la méthode Bayrou à l'œuvre dès demain avec une première réunion en compagnie des partenaires sociaux au ministère du Travail à 11h. Le chef du gouvernement sera entouré de 4 ministres pour présenter les modalités du futur conclave annoncé mardi lors de la déclaration de politique générale. Négociations visant à améliorer la réforme des retraites qui sont censées durer 3 mois.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
Tout au long de la journée, Israël et le Hamas se sont accusés mutuellement de chercher à bloquer l'accord de cessez-le-feu à Gaza, conclu hier. Mais la trêve des combats devrait bel et bien débuter dimanche. Le chef de la diplomatie américaine se dit confiant quant au respect du calendrier. La première phase de l'accord prévoit la libération de 33 otages israéliens au cours des 6 prochaines semaines. Alors Israël se prépare à les prendre en charge. Le nom du dispositif mis en place, les ailes de la liberté. Caroline Baudry.
L'armée israélienne promet que les détails des ailes de la liberté seront dévoilés dans les jours à venir. Le protocole a déjà été mis en place lors du retour des otages en novembre 2023. Centre déployé tout près du point de passage de Kerem Shalom et arrivé des proches en hélicoptère. Côté Gaza, les captifs avaient été remis par le Hamas aux membres de la Croix-Rouge internationale chargés de les faire entrer en Israël. Un hélicoptère les avait emmenés à l'hôpital pour 4 jours d'examen. Cette fois, cela pourrait être bien plus long, estime Sabrina, une proche d'Ofer Calderon, toujours détenue à Gaza.
D'abord, les hôpitaux sont prêt à recevoir les otages. On sait que ça ne sera pas comme la dernière fois où après quelques jours, la plupart des otages ont été libérés. Là, il s'agit des personnes qui ont été retenues dans des conditions insupportables pendant 15 mois. Dans quel état ils sont, on ne sait pas du tout. On sait qu'à Gaza, il n'y a pas de quoi manger.
Sans parler de leur état psychologique, les Israéliens déjà libérés ont de lourdes séquelles après une captivité faite pour briser les otages.
Les explications de Caroline Baudry. Et le gouvernement de Benjamin Netanyahou se réunira demain pour approuver l'accord de cessez-le-feu. Malgré l'opposition ferme de l'extrême droite israélienne, le ministre Itamar Ben-Gvir va voter contre cet accord et promet de démissionner si la trêve est mise en œuvre. Une affaire vieille d'une 20aine d'années qui refait surface au Royaume-Uni et qui provoque des réactions en chaîne. Celle des grooming gangs, ces clans d'immigrés pakistanais accusés d'avoir violé et exploité sexuellement des jeunes anglaises entre les années 90 et 2000. Maxime Gondelot, c'est un certain Elon Musk qui a remis le dossier sur le devant de la scène.
Exactement, Maël, il a fallu l'intervention de l'homme le plus riche du monde pour faire bouger les choses. 7 tweets en moins de 24 heures ont suffi pour faire réagir toute la classe politique anglaise. Aujourd'hui, la ministre de l'Intérieur annonce au Parlement une aide de plus de 11 millions d'euros pour aider les enquêtes locales des gangs d'hommes d'origine pakistanaise qui se sont pris à des mineurs, souvent issus de milieux défavorisés. À Rotterdam, par exemple, ce sont près de 1500 mineurs qui ont été drogués, violés et exploités sexuellement par l'un des gangs pendant 16 ans. Des crimes qui n'ont pas été punis par les autorités par peur de créer des tensions communautaires dans le pays ou par calcul électoral. D'ailleurs, l'un des procureurs généraux de l'époque était Keir Starmer, l'actuel premier ministre anglais. Elon Musk l'accuse d'avoir étouffé l'affaire. Alors là, le ministre de l'Intérieur demande aussi un audit rapide sur 3 mois pour connaître la situation globale dans le pays. Cet audit doit étudier les facteurs culturels et sociétaux dans ces affaires d'exploitation sexuelle d'enfants. Des enquêtes locales qui ne sont pas au goût de tous les parlementaires. Certains demandent une enquête nationale, à l'image du parti d'extrême droite Reform UK, ou comme le député conservateur Chris Phillips, qui a critiquer les enquêtes locales, les jugeant absolument insuffisantes.
Maxime Gondelot. En France, 2000 personnes étaient réunies aux abords de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris aujourd'hui pour un ultime hommage à Jean-Marie Le Pen. Quelques centaines d'invités choisis par la famille du fondateur du FN, décédé la semaine dernière, étaient présents dans l'édifice, dont le président du RN, Jordan Bardella, l'ancien candidat à la présidentielle Éric Zemmour, ou encore l'essayiste Philippe de Villiers. Le polémiste Dieudonné n'était pas le bienvenu à la cérémonie. Vous écoutez Europe 1, il est 22h09. Le cauchemar d'une habitante de La Réunion suscite de nombreux commentaires et de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux depuis dimanche. Et la diffusion d'un reportage à la télévision supprimé d'Internet depuis tant la vague de haine était forte. Anne, une femme de 53 ans, raconte avoir été arnaquée en ligne par un escroc qui se faisait passer pour Brad Pitt. Antoine Bienvaux, la victime aurait perdu plus de 800 000 euros dans l'histoire et le parquet de La Réunion ouvre une enquête.
Oui, et pour comprendre le cauchemar d'Anne, la victime, il faut revenir en février 2023. En vacances avec sa famille, elle reçoit un message sur le réseau social Instagram d'une femme qui se présente comme la mère de Brad Pitt. Puis le lendemain, c'est un homme qui prétend cette fois être Brad Pitt lui-même qui la contacte. Anne répond, pensant avoir réellement affaire à l'acteur, et tombe alors dans le piège. Pendant plus d'un an, elle converse avec ce faux Brad Pitt qui va progressivement lui demander de l'argent pour, dit-il, l'aider à soigner un cancer. Pour être crédible, les escrocs créent de fausses vidéos de la star avec l'intelligence artificielle. Persuadée de vivre une idylle, Anne envoie alors au total 830 000 euros aux faux acteurs. Et lorsqu'elle finit par comprendre la supercherie, il est trop tard. Elle tombe alors en dépression et tente par trois fois de mettre fin à ses jours. Avec l'aide d'un hacker spécialisé dans ce genre d'affaires, elle est néanmoins parvenue à localiser les suspects au Nigeria. Les enquêteurs français s'activent désormais pour identifier et, si possible, interpeller ces escrocs.
Antoine Bienveau, une autre histoire largement commentée ces derniers jours, elle est plus réjouissante celle-là. Le sanglier Riette, recueilli en 2023 par une éleveuse de l'Aube, échappe pour l'heure à l'euthanasie. Le tribunal administratif autorise aujourd'hui l'animal à rester auprès de sa propriétaire, contrairement à ce qu'avait décidé la préfecture le mois dernier, Guillaume Dominguez.
Oui, après un combat de presque deux ans et la médiatisation de l'affaire, Élodie Capé, contactée par Europe 1, laisse exploser sa joie après l'annonce du tribunal administratif.
C'est une excellente nouvelle. Très content évidemment parce que le magistrat a clairement fait un rapport élogieux à notre égard. Il a prouvé par A plus B que la préfecture aurait déjà dû me mettre en conformité.
Par trois fois, la préfecture de l'Aube avait ordonné à l'éleveuse de placer l'animal dans un centre spécialisé sous peine de devoir l'euthanasier, une décision qualifié d'illégal par le juge des référés, comme nous l'explique maître Karl Burger, l'avocat d'Élodie.
Le motif comme quoi un sanglier serait un animal illicite dès lors qu'il n'a pas d'origine connue constitue une erreur de droit, et donc sur cette base-là, nous avons pu obtenir la suspension de la décision.
Riette, quant à elle, a depuis été installée dans un enclos aux normes de 1000 mètres carrés construit sur le terrain de l'éleveuse. Stérilisée et vaccinée, elle coche aujourd'hui tous les critères d'un animal domestique. La préfecture de l'Aube a maintenant un mois pour réévaluer la demande d'Élodie.
Guillaume Dominguez. En football, on connaît les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France. Tirage au sort effectué ce soir. Un choc de Ligue 1, Strasbourg-Angers. Le petit pousset bourgoin Jallieu sera opposé à Reims. Et le Paris Saint-Germain se déplacera au Mans. Rendez-vous les 4 et 5 février prochains. Et puis un hommage à une icône du cinéma, le réalisateur David Lynch, dont l'univers étrange et fascinant a séduit les spectateurs du monde entier depuis plusieurs décennies. David Lynch est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans, Thomas Guignot.
Oui, David Lynch s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Il y a quelque temps, il confiait souffrir d'un emphysème, une maladie pulmonaire qu'il a contractée après des années à fumer du tabac. En 1989, David Lynch crée la série Twin Peaks. Elle est diffusée de 90 à 91 aux États-Unis. Elle deviendra rapidement culte et participera à sa renommée internationale. Il est également l'auteur de 10 longs métrages, tous dans un style bien reconnaissable appelé Lynchien. Blue Velvet, Elephant Man ou encore Mulholland Drive en font partie. Au cours de sa carrière, il est lauréat d'un Lion d'Or, d'un Oscar d'honneur en 2020 et d'une Palme d'Or au Festival de Cannes pour ses films. Il devient en 2002 chevalier de la Légion d'honneur, puis officier en 2007. Il s'oriente par la suite dans la peinture, la photographie et la musique. Certains le qualifient même de premier surréaliste moderne. Mais comme il le disait avec beaucoup d'humour, gardez un œil sur le beignet et non sur le trou.
Thomas Guignot, voilà, c'est l'une des informations de ce jeudi soir, le décès du réalisateur américain David Lynch à l'âge de 78 ans. Un point sur les marchés financiers, désormais le CAC 40 qui clôture en hausse ce soir, plus 0,69%. Du côté de Wall Street, eh bien c'est une clôture en baisse, moins 0,16% pour le Dow Jones, moins 0,89% pour le Nasdaq. La météo désormais avec vous, Marlène Duret. Toujours beaucoup de grisailles dans le nord du pays demain.
Oui, de la Bretagne à l'Alsace, en passant par la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, en passant aussi par une bonne partie du Centre-Val de Loire, de la Bourgogne-Franche-Comté, n'oublions pas le Lyonnais. Donc voilà, avec d'ailleurs des brouillards potentiellement givrants dès la fin de nuit. On n'exclut pas quelques rayons de soleil ici ou là dans le courant de la journée, et puis notez qu'en montagne, ce sera du ciel bleu. Au sud de toutes ces régions que je viens de citer, plein soleil, une fois les brouillards matinaux dissipés, bien évidemment, le beau temps devrait même gagner le sud de la Bretagne. Et puis, notez malgré tout un temps plus variable, temporairement plus instable dans les Pyrénées-Orientales et sur l'île de Beauté avec un risque d'averse. Quant aux températures, eh bien, elles baissent partout demain matin avec des gelées généralisées. Moins 6 à 1 degré dans la plupart des régions. Quant au maximal, elles baisseront sur la moitié nord. Elles seront comprises entre 1 et 5 degrés. Prévoyez un peu plus à l'ouest de la Bretagne avec 6 à 8. Sur la moitié sud, plus de douceur avec 8 à 13 en général, jusqu'à 15 ou 16 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.
Merci beaucoup Marlène Duret et merci à vous de nous écouter sur Europe 1 en ce jeudi soir. Et à 22h15, c'est l'heure de retrouver Omblin Roche.
Merci Maëlle Hassani, on vous retrouve à 23h pour les informations sur Europe 1. Dans un instant, les années top 50.
Bonjour, c'est Cyril Hanouna.
16h-18h, on marche sur la tête.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Non mais on est tombé sur la tête, hein. On a peur de tout.
Des propos comme ça, moi je peux pas. Les gens n'en peuvent plus de voir ces gens qui blablatent et qui sont incompétents et qui nous disent quoi faire.
C'est un deux poids deux mesures, mais qui aujourd'hui n'a plus aucun sens.
Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Et puis bah bonne année.
Vous parlez pour nous. Vous êtes notre voix à tous.
Europe 1, la radio libre.
On marche sur la tête.
On marche sur la tête. Cyril Hanouna.
Alors, à demain, de 16h à 18h sur Europe 1 et en replay sur le site et l'appli Europe 1.
17h56. 17h58. L'enfer, le périph. 18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Europe 1, les années top 50.
Omblin Roche.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est l'heure des années top 50. La parfaite transition entre le journal de 22h et la libre antenne. 15 minutes de musique qui vont agir sur vous comme une petite Madeleine de Proust. Oui, chaque soir, je choisis trois titres des années 80 et 90 pour vous raconter, à travers la petite histoire de ces chansons, la grande histoire du top 50 qui fête cette année ses 40 ans. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et si je vous dis qu'en plus, Europe 1 vient de souffler ses 70 bougies.
Les années top 50, Omblin Roche sur Europe 1.
Alors ce soir, nous allons revenir sur une année en particulier, celle de la sortie du film culte Retour vers le futur, de l'affaire du Rainbow Warrior et de la naissance du plombier Mario sur la Nintendo. Voilà, ce Mario-là, exactement. Cette année, eh bien, c'est 1985. Et on commence cette séquence en douceur avec une chanson tout en délicatesse. Elle s'appelle Tout doucement et c'est la chanteuse Bibi sur Europe 1.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Simplement arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement. Changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement. Tout simplement. Fermer pour causer des sentiments différents. Reviendrai peut-être un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Sentiments différents. Tout simplement fermer pour penser. c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude.
De l'été de l'année 1985, numéro 2 du top 50, un succès que l'on doit en partie grâce à Europe 1, figurez-vous. Oui, Europe 1 qui l'avait beaucoup diffusé à sa sortie. Cette chanson a changé le destin de la chanteuse Bibi, qui avait été repérée dans un bar au Ghana, son pays d'origine, un titre incontournable qui a ensuite été adapté en italien et interprété par Dalida.
Europe 1, les années top 50.
Ombline Roche.
Allez, je vous emmène aux États-Unis maintenant, à l'époque d'une des séries phares du moment. On appelait ça le feuilleton d'ailleurs, c'est Dynasty. L'un des comédiens du casting quitte la série au bout de 2 saisons pour se lancer dans la chanson. Il sort le disque Square Rooms et on écoute tout de suite la chanson titre. C'est Al Corley qui est dans les années top 50 sur Europe 1. Corley avec Square Room sur Europe 1, numéro 1 du top 50 pendant 5 semaines en 1985, l'année que nous mettons à l'honneur ce soir. Il sortira l'année suivante un deuxième single sans rencontrer le même succès malheureusement.
Les années top 50, Ombline Roche sur Europe 1.
Et si on finissait l'émission ce soir en fanfare, vous avez 10 secondes chrono pour pousser les meubles, car là mes amis, ça va envoyer du lourd. Je vais vous passer un tube absolument irrésistible qui a fait trembler les pistes de danse en 1985. Une bombe musicale signée du Toulousain Jean-Pierre Madère. C'est Macumba. Bah oui, vous l'entendez, donc forcément, vous l'avez deviné. Macumba, Jean-Pierre Madère, dans les années top 50.
Elle est venue sans bagage. Comme échouée d'un naufrage. Dans les cales d'un cargo, elle a quitté son île. Pour un monde nouveau, loin des bidonvilles.
Vous avez dansé au Macumba, peut-être pas tous les soirs, mais au moins une fois, Jean-Pierre Madère et son Macumba sur Europe 1, numéro 3 du top 50 en 1985. Le Macumba n'est donc pas une danse d'Amérique latine, ni le nom de l'héroïne de la chanson, c'est bel et bien le nom de plusieurs discothèques qui ont inspiré Jean-Pierre Madère lors de l'écriture de la chanson. Alors il reste au moins un Macumba encore en activité avec Roman Dordor qui prépare l'émission avec moi. On a vérifié. Le Macumba de Lille. Mais si jamais il y a un Macumba près de chez vous encore ouvert, dites-le nous. Pour le clin d'œil aussi quand même, pour vous dire. Macumba, c'est également une forme de magie pratiquée au Brésil. Voilà. Vous vous coucherez moins bête ce soir.
Europe 1, les années top 50.
Ombline Roche.
Et voilà, les années top 50, c'est tout pour ce soir. On retournera en 1985, dimanche, hein, dès 21h, les années top 50, édition week-end, pendant une heure, et on va se faire plaisir, croyez-moi. Et avant cela, je vous dis à demain, les petits clous, pour un voyage dans l'hémisphère sud, puisqu'on ira faire un tour du côté de l'Australie. Excellente fin de soirée avec Olivier Delacroix. Tout de suite, c'est la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Ombline et merci pour ce voyage au cœur des années top 50. On vous retrouve bien évidemment avec le plus grand des plaisirs dès demain soir à partir de 22h15. Il est 22h30 sur Europe 1.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver encore une fois à 22h31. Nous sommes ensemble, chers amis, pendant 2h30. C'est votre libre antenne qui débute et vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Il y a tout un tas de moyens pour venir jusqu'ici, à ce studio Coluche, ici à Europe 1, et échanger avec nous. Vous pouvez envoyer vos SMS au 739 21, suivi du mot nu, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous nous envoyez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vous pouvez aussi nous envoyer vos messages en privé à Julia ou à Florian sur la page Facebook de la Libre Antenne où vous êtes 21 493 membres qui forment cette communauté numérique de la Libre Antenne. Vous adressez vos messages à Florian et à Julia en privé et ils vous rappelleront dans les plus brefs délais. Vous pouvez adresser aussi vos courriers postaux ici à Europe 1, à Olivier Delacroix ou à Valérie Darmon, 2 rue des Cévennes, 75 015, Paris, à Europe 1 bien évidemment et à la Libre Antenne. Et comme cela, tous ces jeunes gens vous rappelleront aussi dans les plus brefs délais. Nous sommes accompagnés ce soir de notre réalisateur historique Laurent Pellet et puis nous signalons ce soir la présence d'un personnage historique d'Europe 1, en la personne de Philippe Chartier qui a assuré pendant des dizaines et des dizaines d'années, je ne sais pas combien de temps, 20 ans, 20 années de loyaux et bons services à Europe 1 et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Il y a beaucoup de monde avec nous, il y a la maman de Hugo Lopez qui est avec nous et enfin Louise qui fait son stage de 3e et qui est venue en stage ce soir. Donc inutile de vous dire que cette libre antenne est plus vivante que jamais et que ce soir c'est jeudi et ça a un parfum déjà de quelque chose de la vie qui se célèbre, qui continue et qui se raconte sur cette libre antenne. 01 80 20 39 21, vous savez, faites ce numéro quand vous le sentez et peut-être aurai-je le plaisir de vous écouter tout à l'heure. En attendant votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
La libre antenne, Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Florian Lanois vous propose le conseil Toltec de la, du jour. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Ça, c'est immense encore. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Alors je vous le dis souvent sur cette libre antenne de vous accorder des moments pour vous, ces temps où vous pouvez faire un bilan et puis réfléchir, être en conscience avec vous-même et prendre conscience encore plus de qui vous êtes. Et puis, c'est bien de se faire des compliments, c'est bien de se dire, tiens, ça, je l'ai bien fait, ça, j'ai réalisé comme il le fallait. C'est bien de se donner des petits jugements quotidiens comme ça, je peux faire de mon mieux. Seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Et il faut s'aimer comme on est. Vous vous rappelez hier, le conseil Toltec était sur le fait d'être parfait. Donc personne n'est parfait. On ne peut pas être parfait complètement. Mais ça n'a rien de grave. faut simplement essayer de s'approcher du mieux que l'on peut être. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. C'était le conseil Toltec du jour. Nous accueillons Gilles Leclerc maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Je vous appelle comment, Gilles ? Je vous appelle commissaire ? Je vous appelle comment ?
Comme vous voudrez. Je suis les deux, donc au choix.
D'accord. Vous connaissez Xavier Benerozzo ?
Oui, bien sûr, oui, je l'ai.
D'accord, parce que
dans ma carrière.
Oui, ouais. Parce que c'est un ami à moi et il m'a souvent parlé de vous. Et bien évidemment, Gilles Leclerc, le commissaire Gilles Leclerc, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire des faits divers en France, votre nom résonne puisque vous êtes ce que l'on appelle un super flic. Est-ce que vous acceptez cette appellation de super flic?
Non, pas trop, parce que, enfin, notamment dans le métier que j'ai fait, bon, j'ai pas été campeur judiciaire, mais c'était quand même mes bases et mes préférences, si je veux dire, dans ma carrière, mais on fait pas le travail seul, si vous voulez, donc on est toujours dans le collectif, donc bon, vous avez le chef, oui, qui doit insuffler une stratégie, et puis qui doit coordonner, mais vous savez, souvent dans les enquêtes, c'est pas forcément le plus gradé qui va avoir la bonne idée ou qui va révéler la bonne piste. Donc voilà, je préfère le collectif.
Le collectif.
Super flic, c'est bien, ça, c'est cinématographique, mais c'est pas tout à fait la réalité.
Parce que ce métier est avant tout une affaire de famille, d'équipe, hein, je pense.
Oui, absolument, oui, il y a l'esprit de groupe, il y a la solidarité, il y a l'entraide, et puis on a plus de possibilités dans 10 cerveaux que dans un seul, donc c'est vraiment un vrai travail d'équipe, oui, voilà, c'est le bon terme.
Vous avez écrit L'œil du crime aux éditions Michel Lafon, avec une préface de mon copain Olivier Marchal. Dans votre livre, en fait, vous revenez sur 24 affaires criminelles qui vous ont marqué. 24. Alors, je suppose qu'elles ne vous ont pas marqué toutes de la même manière, mais pourquoi avoir choisi ces 24-là précisément ? Qui ne sont pas obligatoirement j'ai cru comprendre, que des succès.
Non, ça représente la réalité de ce qu'est la difficulté de la police judiciaire. Bon, alors 24, c'est un petit peu aussi lié aux exigences de l'éditeur, parce qu'on peut pas sortir des livres de 600 pages. Donc effectivement, j'en avais beaucoup plus, hein, j'en ai toujours plus, parce que j'en ai un petit peu sous le coude pour faire un deuxième tome. Mais j'ai essayé de varier. C'est quand même pas particulièrement axé sur les affaires d'homicide, mais vous avez aussi une affaire d'un braqueur solitaire qui les a fait courir pendant 10 ans avant qu'on l'identifie, ou l'histoire de Radio Libre qu'on avait avant 81, voilà. Donc j'ai essayé un petit peu de faire un patchwork, bon, évidemment avec le fil rouge qui était quand même les meurtres, quoi. Voilà.
Vous êtes un spécialiste de la police judiciaire, hein. Vous avez travaillé à la brigade des stupes, à l'antiterrorisme, avant d'être nommé préfet en Corse, à Marseille. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, Gilles Leclerc. Lorsque l'on a eu une vie aussi trépidante que la vôtre, lorsqu'on a évolué dans ce milieu qui, quoi qu'on en dise, est un milieu hors norme, un milieu à part, un milieu où on est souvent... où nos consciences sont souvent en éveil, est-ce qu'on s'ennuie pas à la retraite ?
Bon, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre le mot retraite au sens littéral du terme. Oui. J'aime pas trop ce mot, vous voyez. Donc, moi je continue à travailler, j'ai des contacts, je me suis engagé dans plein d'activités, je suis à la Fédération Française de Football, je suis à l'UEFA.
Ah oui, d'accord.
Voilà, j'ai des responsabilités comme ça dans différentes activités. Mmh. Je continue à faire du sport. Je suis un petit peu le travail de mes anciens collaborateurs ou des anciens collègues.
Oui.
On se rencontre souvent. Donc en fait, on reste dans le métier, on prend un peu de recul. ce qui fait plaisir parfois, c'est d'avoir des appels de certains de mes anciens jeunes collaborateurs qui ont vieilli, qui viennent me consulter parfois. Donc c'est plutôt bien d'avoir ce rôle de sage, un peu, vous voyez, un peu avec du recul.
Oui.
Donc on décroche de toute façon jamais d'un métier comme celui-ci. Bon, il y a beaucoup de métiers d'ailleurs comme ça qui sont passionnants. Hein. Mais le métier de police judiciaire particulièrement, ça crée des liens, ça crée des liens indéfectibles.
Des liens particuliers.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, on se souvient quand même, et c'est souvent ceux-là qui nous ennuient le plus, ce sont les affaires qu'on n'a pas sorties. On a toujours 3-4 clous dans les talons qui nous ennuient pour marcher, parce que on aurait bien aimé trouver l'auteur ou l'éditeur de ce crime qu'on n'a pas résolu. Ça, c'est pour ça que c'est aussi une école d'humilité, si vous voulez, travailler à la police judiciaire et dans les enquêtes. Celui qui a la grosse tête, il réussira pas. Hein. Il faut avoir vraiment cette humilité.
Comment est-ce que on s'arrange avec justement les histoires, les affaires qu'on n'a pas sorties, Gilles Leclerc?
Eh ben, c'est au début, je dirais, plus on vieillit, plus l'affaire est vieille, et plus on l'a d'ailleurs en tête. C'est paradoxal, mais moi je suis toujours un peu pas traumatisé, mais je cherche toujours qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour avoir la bonne piste et pour identifier les auteurs. D'ailleurs, c'est ce qui est assez intéressant, c'est quand on sort les affaires, qu'on a la bonne piste ou la bonne approche scientifique, hein, parce que bon, ça a beaucoup évolué aussi tout ça.
Oui.
On se dit, on a galéré, c'était si simple, on n'a pas trouvé tout de suite. Vous voyez, donc parfois ça paraît simple, alors que bon, quand une affaire n'est pas résolue, effectivement, elle nous paraît beaucoup plus compliquée. Et il arrive que, avec un peu de chance, parfois, ou des circonstances particulières, une vieille affaire ressorte. Et je peux vous dire que même si je suis plus dans aux affaires, et que j'ai encore des collègues qui me contactent, s'ils me donnent une bonne nouvelle de ce type, je suis hyper ravi.
Bien sûr. Est-ce que l'on garde, et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet ensuite, mais je me posais la question toujours de, bien évidemment vous avez évoqué les liens indéfectibles avec les collègues, ceux avec qui on a sorti des affaires, ceux aussi avec qui on les a pas sortis, en tout cas toutes ces heures passées à essayer de chercher, de trouver le coupable ou la coupable. Mais est-ce que on garde certains liens un peu sacrés avec des familles de victimes?
Je cherche toujours rarement, même si certaines ont plus marqué que d'autres. Bon, avec le temps, c'est sûr que on peut pas avoir des liens d'amitié avec toutes les victimes, heureusement, mais bon, j'ai eu effectivement pendant quelques temps des relations privilégiées avec certaines familles sur des affaires horribles ou qui étaient très complexes. Bon, effectivement, le temps en passant, les différentes affectations qu'on a, puisqu'on reste pas toujours à la CRIM. Moi, j'ai eu plusieurs affectations.
Oui. Oui.
Mais oui, je me souviens de liens privilégiés, oui, avec quelques affaires dont une que j'ai évoquée dans le livre. Une affaire assez horrible à Ozoir-la-Ferrière. J'avais des bonnes relations avec la fille des victimes, par exemple.
Rappelez-moi quelle était cette affaire, je ne me souviens pas.
C'est l'affaire d'Ozoir-la-Ferrière. Le hasard a voulu que l'auteur s'appelait Serge Leclerc. C'était pas la même orthographe, alors je m'en sors bien.
Oui.
Mais c'était une affaire assez compliquée. C'était un serial killer qui avait fomenté son projet criminel en prison, qui est sorti à la suite des amnisties qu'il avait eues en 1981.
Oui.
Et qui a passé son temps à d'abord repérer les victimes qu'il allait faire, et ensuite, quand il a eu sa liste, il est passé à l'acte. Et bon, on a malheureusement arrêté qu'après deux affaires, enfin une de séquestration où les victimes n'ont pas été tuées, et une où le couple a été tué quasiment sous les yeux de la fille aînée.
D'accord.
Et cette affaire-là, j'avais des bonnes relations avec cette jeune gamine. Elle avait 10 ans quand ses copains sont décédés. Bon, après, on s'est retrouvés aux assises, etc. Elle faisait partie un peu de ma famille, vous voyez, quelque part.
Oui, voilà. Oui.
Ça marque.
C'est une vie particulière. On en parlera aussi après de ce qui reste, des images qui restent, des cicatrices ou peut-être quelques plaies qui ont plus de mal à cicatriser que d'autres. Vous avez travaillé sur l'affaire Fourniret, celle de Robert Boulin, Estelle Mouzin. Alors Fourniret, Estelle Mouzin, je fais le lien. Ça doit être usant de travailler aussi longtemps sur des cold cases comme ça. Qu'est-ce qui vous fait tenir, en fait, sur la longueur?
Bah, je crois qu'il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, quand on est en PJ, on est, pardonnez-moi l'expression, on est un peu chasseur. Donc,
oui.
On veut trouver le gibier, donc le gibier de potence surtout, si je veux dire. Donc, il faut être persévérant, il faut avoir effectivement une assiduité dans le travail. Il faut jamais perdre de vue qu'on a toujours la chance que éventuellement aussi la science nous donne des nouvelles possibilités. Et puis ou qu'il y a un témoin qui se révèle, qui après avoir entendu ou vu un reportage, se dit tiens, finalement je suis passé à cet endroit-là et c'est un témoin très important alors que c'était quelqu'un de complètement anodin. Donc il faut toujours avoir l'espoir.
Oui.
Vous savez, on se blinde aussi. Malheureusement, il faut aussi avoir une bonne carapace parce que bon, quand j'étais à la crime. Je suis resté 10 ans à la PJ de Versailles.
Oui.
C'était la moyenne. Je suis désolé de parler de statistiques pour des meurtres ou des morts violentes, mais on avait entre 80 et 100 affaires suspectes par an.
Oui.
Donc, vous imaginez,
c'est énorme.
C'était pas également réparti dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait nous arriver d'avoir 4 affaires dans la même journée.
Oui.
Et puis de souffler un peu pendant 8 jours. Mais bon, au global, c'est des milliers de cadavres, en fait. C'est impressionnant sur une dizaine d'années ce que j'ai pu avoir comme affaire, soit directement, soit ou à coordonner ou aller sur place. Mais donc voilà, on ne sait pas. Je crois qu'on ne sait pas si on est fait pour ça, honnêtement. Vous sortez de la fac, vous rentrez à l'école de commissaire après avoir passé un concours.
Mais vous ne vous étiez pas promis à cette carrière-là, si j'ai bien compris, parce que à la base, vous aviez plus prévu un travail plus sur le droit, bureau.
Ouais, ça, et
comment est-ce que vous avez obliqué vers la carrière de commissaire?
Un vrai hasard. Hein. Effectivement, je voulais être prof de droit international public. Alors, j'avais fait je commençais ma thèse sur le droit de la mer et les eaux territoriales. Donc, vous voyez qu'on était loin des domiciles. Et puis, j'ai finalement pris une autre direction en discutant avec un copain avec lequel j'étais à l'université. Et il m'avait dit, tiens, je te verrais bien commissaire. Je savais pas la différence entre un policier et un gendarme, hein, je vous le dis franchement. Et j'ai regardé le concours. Ouais, je dis bon, finalement, ça va me faire pas mal, et je me suis mis là-dedans. Et en fait, la vocation, entre guillemets, en tout cas le goût de l'investigation, je l'ai eu pendant mon stage de police judiciaire, parce qu'on passait dans tous les services avant d'être titularisé et d'avoir son poste. Et j'ai eu la chance de rentrer à la police judiciaire de Versailles en stage, et d'avoir aussi de belles affaires à traiter pendant ces 4 mois de stage.
Oui.
Et voilà, j'étais repéré par le patron, et puis c'est parti comme ça. J'ai eu le poste d'adjoint à la brigade criminelle à la sortie de l'école, et puis ça a déroulé après.
En 77, vous intégrez le groupe criminel du SRPJ de Versailles, puis à la tête des policiers chevronnés et engagés, vous allez consacrer 10 ans de votre vie à traquer les criminels au sein de la première brigade mobile, moins médiatisée que le célèbre quai des Orfèvres, mais tout aussi investi. Vous le racontez dans votre livre, vous avez été confronté à la douleur des victimes, à l'irréparable et à la folie de l'être humain. C'est pareil, est-ce que ça change un homme, justement, d'être confronté à cette folie de l'être humain?
En tout cas, c'est surtout notre entourage qui peut le dire. Moi, j'essayais d'être un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'avais ma passion, c'était le football, je jouais au football, donc j'essayais de expurger un petit peu tout ce que je voyais dans la journée ou dans la nuit en faisant mon sport. Bon, c'est difficile, hein, c'est difficile de savoir si on change. Évidemment que ça blinde, évidemment que ça rend on a plus de recul, je pense, sur les événements. Mais en même temps, ça cultive cet esprit collectif dont je vous parlais. Moi, je l'avais évidemment en faisant du football, parce que le collectif c'est important. Mais finalement, moi j'ai trouvé ma voie tout de suite, parce que je me suis dit tiens, c'est comme une équipe de foot ici. On est à la crise. On est tous solidaires, on est ensemble, il n'y a pas de chef qui compte, le chef il prend ses décisions, il les donne, mais voilà, c'est chacun, on avait des brainstorming, et parfois c'était le jeune, petit jeune qui arrivait qui avait la bonne idée. Je raconte dans une des affaires à Provins, vous voyez, on s'est retrouvé sur une affaire de meurtre horrible d'une dame qui avait été égorgée. Eh bien, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on reste. On s'est retrouvé à 8 dans une chambre d'hôtel, vous voyez.
Oui.
On restait sur place. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie de l'ambiance qui fait aussi que, peut-être, ça fait des gens plus solides. Bon, on aime tous nos faiblesses, les êtres humains. Mais ce fait de travailler ensemble et d'avoir toujours quelqu'un qui vous soutient si vous avez un petit coup de mou, ça permet d'avancer et d'être plus efficace, quoi.
Mais lorsque je vous parle de changer un homme, c'est que justement, alors voilà, l'équipe, ce que vous racontez de se retrouver à 8 dans une chambre d'hôtel, cette solidarité entre vous, cette vocation de chasseur partagé, je pense que ça renforce un homme sur justement la force qu'il peut entretenir et développer en justement comptant toujours sur son collègue et en sachant qu'il n'est pas tout seul, que vous veillez tous les uns sur les autres. Mais c'est plus par rapport à la nature humaine. Quand on est confronté à ces images, vous en parlez dans votre livre, avoir été confronté à des scènes d'horreur, à cette violence et à cette folie humaine, est-ce que ça nous change obligatoirement quand on est un flic? Est-ce que on ne devient pas tout le temps un homme aux aguets, et est-ce que on ne guette pas en permanence justement cette folie à tout instant, sauf sur le terrain de foot, bien évidemment, mais ouais. Vous voyez ce que je veux dire, dans les scènes quotidiennes de la vie?
Oui, peut-être qu'on est plus peut-être plus attentif à ce qui se passe autour de soi. Moi, j'ai pas eu cette impression de changer. J'avais, je pense, cette fibre qui a fait que je me sentais dans un peu dans mon état naturel, finalement, en travaillant. Ce qui nous importait, c'était justement d'apporter la vérité aux victimes, aux familles des victimes, et évidemment à la justice, le fait de travailler en équipe, je pense que c'était aussi c'est très important, parce que effectivement, quand il y a un qui flanchait ou qui dérapait un peu, ça permettait aussi de le recadrer ou de l'entourer. Et donc ça, c'est vraiment la force de la PJ. On parlait d'Olivier tout à l'heure. Olivier, il n'était pas fait pour s'occuper des cadavres, et il a vite compris que il était plus lui-même dans ces affaires-là, parce que il transposait l'image qu'il avait de quelqu'un au sol sur sa famille.
Donc, oui, oui.
Impossible. Et donc voilà, on ne sait pas si on est fait, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas du tout si on a cette vocation ou si on sera blindé pour travailler dans ce milieu. Bon, moi j'ai réussi, je suis bien adapté. Voilà, je me suis bien adapté. J'avais aussi des équipes extraordinaires, hein. C'est vraiment des vrais pros. Donc j'ai tout appris au début. Et après, j'ai gagné mes galons chefs. Quand vous avez le respect de vos troupes, c'est fantastique quand vous êtes patron d'une équipe comme ça.
Vous dites,
Non, je dis ça perdure parce qu'on continue à se voir. Vous voyez, demain, je suis à la PJ de Versailles. Il y a une fête annuelle tous les ans, ça s'appelle la Caisse du Souvenir. Et je retrouve des gars que j'ai pas vu depuis 40 ans. Enfin, on se voit tous les ans, mais bon, ça fait 40 ans qu'on se croise la plupart tous les ans dans cette fête qui est organisée. C'est une espèce de fête de vœux, si vous voulez, mais en même temps, c'est tous les anciens sont là. Enfin, tous ceux qui peuvent venir. Donc c'est un sacerdoce en fait. On sait pas ce qui nous attend. Moi je me souviens quand je suis arrivé à Versailles, j'avais le numéro 2 de la PJ de Versailles qui m'avait dit bon jeune homme, vous rentrez au monastère.
Ah oui, d'accord.
J'ai pas trop compris au début. Après j'ai vite compris ce qu'il avait voulu dire. Voilà.
Est-ce qu'il y a un travail personnel à effectuer pour tenir le choc, ou finalement, au même titre que les infirmières, les médecins, les chirurgiens, il y a cette vocation qui, dès le début, solidifie et fait qu'on n'a pas obligatoirement un travail énorme personnel à faire. Vous parlez d'Olivier Marchal, hein, qui transposait les scènes d'horreur et donc les cadavres avec sa propre famille. Bon, là, je pense que c'est ce qui a sûrement été compliqué pour lui. Mais au-delà de ça, est-ce que là...
Mais chacun a sa vocation. Lui, on l'avait transféré à lutter contre le banditisme. On appelait ça le banditisme, qu'on appelle le crime organisé maintenant. Il était beaucoup plus à l'aise, voilà, avec le monde des voyous qu'avec des affaires de meurtre de gamins ou de crimes passionnels, tout ce qu'on voudra. Mais bon, les cadavres, c'était pas pour lui. Mais c'est un très bon flic et moi j'adore Olivier, c'est vraiment un type remarquable.
Extraordinaire.
Une gentillesse incroyable.
Nous nous sommes rencontrés il y a trois ans maintenant et c'est vrai que c'est un grand bonhomme. Mais
vous avez vu sa préface?
Oui, bien sûr.
Chaque fois, il m'appelle toujours patron. Enfin bon, c'est un peu un gag entre nous, mais salut patron, c'est rigolo quand même.
Mais oui, mais parce que je crois qu'à vie, c'est de vous qu'il m'avait parlé. Je crois qu'à vie, il vous voit comme ce grand bonhomme, comme le patron, parce qu'il il a une sensibilité. Et puis on va évoquer sa sensibilité artistique, hein, qui fait que je pense qu'il est sûrement mieux là où il est qu'il ne l'était avant.
Bon, on sentait déjà sa vocation d'ailleurs, parce que bon, quand on faisait des fêtes à PJ, vous savez, on fait toujours la fête. Hein.
Oui.
c'était aussi une manière d'expurger tout notre stress. Bon, c'était quand même un bout en train et un meneur. Hein,
je vous rassure, vous le savez, il n'a pas très changé. On va continuer à vous écouter, commissaire Gilles Leclerc. On marque une pause pour laisser passer l'info et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord? À tout de suite.
Voilà.
Médiamétrie qui mesure l'audience des radios viennent de sortir.
On vous adore!
La famille Europe 1 n'en finit pas de s'agrandir.
Ça fait chaud au cœur.
Bienvenue aux 470 000 nouveaux auditeurs gagnés en un an.
Bienvenue dans la famille Europe 1.
Avec nous, vous êtes en bonne compagnie.
Vous êtes formidables!
Merci à toutes et à tous.
Merci d'être aussi nombreux.
470 000!
470 000 nouveaux auditeurs.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
Un beau cadeau pour Europe 1 qui fête avec vous ses 70 ans. Au total, vous êtes désormais plus de 2 700 000 à écouter tous les jours votre radio préférée, Europe 1.
Merci.
Europe 1, la radio libre.
Le
prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke hybride, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock valable jusqu'au 28 février par rapport au prix au 1er décembre. Détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer.
17h56. 17h58. L'enfant.